L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes le 30 décembre 1916. Il est 8h44. Le soleil d'hiver ne s'est pas encore levé sur la Sainte-Russie que déjà, la police est appelée au bord d'un des fleuves les plus importants du pays. On vient de repêcher un corps, dans quelques minutes. À la découverte de la dépouille de Raspoutine, conseiller du tsar, les plus hautes sphères du régime vont entrer en ébullition. Il est 8h44, c'est l'heure H de mon histoire. La Neva, paisible et calme, transporte ses blocs de glace à travers la ville impériale de Saint-Pétersbourg. La Sainte Mère des cités de Russie, lieu de pouvoir absolu, est la vitrine des tsars. Le fleuve qui coule en son sein, gelé par les aléas d'un hiver plus rude encore que les autres, impose sa puissance. Il n'est long que de 70 km environ, mais sa largeur impressionnante de 600 mètres par endroit se conjugue à une profondeur allant de 8 à 24 mètres. Les températures sont négatives depuis quelques semaines déjà et les manteaux de fourrure et autres gants doublés sont ressortis des placards. La nouvelle année va bientôt poindre le bout de son nez. L'ambiance n'est pourtant pas à la fête. Depuis 2 ans et demi, le pays est en guerre. Allié de la France et de l'Angleterre, la Russie est enlisée et se trouve dans une spirale négative. Elle n'arrive pas à prendre le dessus sur les troupes austro-hongroises et allemandes et perd en continu et depuis bien longtemps. Trop de soldats. Le commissaire, Igor Magomedov, écrase sa cigarette sur la roue en bois du taxi hippomobile de la police. Il vient d'apprendre que son plus jeune frère est mort au front. Quittant ses parents écrasés par le poids du deuil, il est arrivé au bureau aux aurores ce matin-là. En décembre, le jour ne dure qu'à peine 6 heures à Saint-Pétersbourg et aux premières lueurs, on a amené un corps qui vient d'être repêché près du pont Petrovski. Le commissaire n'en sait pas plus pour l'instant. De garde, il attend à côté de sa voiture son adjoint, aussi empoté que ponctuel. Enfin, il arrive emmitouflé dans son manteau, la mine enfoncée dans son col. Les deux hommes se lancent sur le chemin les menant aux morts. Le trajet est assez court entre le commissariat central et le fameux pont. Ils descendent donc rapidement. L'adjoint sort ses mains de ses poches et empoigne l'appareil photo tendu par son supérieur. Il commence à mitrailler. Façon de parler. Car il faut bien 3 minutes pour prendre un cliché. En attendant son collègue photographe en herbe, le commissaire établit les premières constatations. Le corps est gelé, rien d'étonnant, et une épaisse couche de glace recouvre son manteau en peau de castor. Premier élément, voilà un notable, au pire, un bourgeois, car ce genre de peau coûte cher. Il s'approche plus près du cadavre, repêché ligoté et les bras au-dessus de la tête. Il compte rapidement plusieurs impacts de balles, au moins 3. S'approchant du visage, son cœur tressaille. Il reconnaîtrait ce mort entre tous les habitants de Russie. Bien que son visage soit tuméfié, défoncé même par endroits, avec un impact de balle au milieu du front, cet homme mort là, devant lui, c'est l'homme le plus célèbre du pays, après le tsar. Se retournant vers son collègue, la voix brisée, il murmure « Oh putain, c'est Raspoutine !» Et effectivement, le corps du plus proche conseiller du souverain se trouve là, devant eux, déjà raide. Dieu merci. Ce diable n'avait pas les yeux ouverts ou les deux hommes auraient pu être happés en enfer. Discrètement, mais avec vigueur, il boucle la zone. Il ne faut pas que le bruit de cette mort se propage avant que le palais n'ait été mis au courant. Le commissaire arrive à joindre son bureau qui informe tout de suite son supérieur. Alors qu'il fume déjà un cigare de bon matin, ce dernier prend la mesure du problème immédiatement. Le palais est averti dans la foulée. Pour le couple impérial, c'est la catastrophe. Le tsar Nicolas II, la moustache rebiquée, tient sa tête entre ses mains à l'annonce de la nouvelle. Sa femme, l'impératrice Alexandra, est en larmes. Elle refuse l'impensable. Cet homme était l'ange du royaume, la locomotive de son destin. Il a sauvé son fils à de nombreuses reprises grâce à ses prières. Elle perd aussi, plus personnellement, un ami cher, si ce n'est plus. En tous les cas, il faut trouver les coupables de ce geste et les punir. Elle est furieuse, tant contre les assassins que contre son mari, incapable d'agir. Le palais impérial se drape de noir alors que le jour se lève doucement. Nicolas II ne peut s'empêcher de voir en ce meurtre un affreux présage pour lui, mais aussi pour le pays. Le peuple réclame depuis longtemps déjà plus de liberté, plus de démocratie, et jamais il n'est parvenu à leur donner satisfaction. Une frange d'opposants au régime, ceux qu'on appelle les bolcheviques, s'organise et souhaite prendre le pouvoir par la force. La situation militaire est catastrophique. Cela attise les braises d'un feu qui risque de devenir bientôt incontrôlable. Il se lève machinalement et se dirige vers son bureau. Il va convoquer en urgence ses ministres et les généraux, comme chaque jour. Il aura droit en avant-première au compte-rendu apocalyptique des combats au front. Sans un mot pour son mari, l'impératrice, elle, est partie réveiller ses quatre filles et son fils, l'héritier du trône, le si fragile Alexis. Elle ne leur dit rien sur la terrible nouvelle qu'elle vient d'apprendre. Alors qu'elle étreint ses enfants, résonne dans sa tête la prophétie annoncée par Raspoutine au cœur d'une séance de prière. « Si je suis tué par des hommes ordinaires, par mes frères, toi, tsar Nicolas, tu vivras. Tu resteras sur le trône et tes enfants vivront. Si je suis tué par des seigneurs, des aristocrates, mon sang coulera sur toute la Russie. » Et ils devront quitter le pays qui basculera et sera vaincu. De son côté, Nicolas II, lui qui fait les 100 pas dans son bureau doré, se souvient également d'une confidence que son conseiller lui a faite avant l'entrée en guerre de son pays. « Je mourrai dans des souffrances atroces. Après ma mort, mon corps n'aura point de repos, puis tu perdras ta couronne. Toi et ton fils, vous serez massacrés, ainsi que toute la famille. » Après, le déluge terrible passera sur la Russie et elle tombera entre les mains du diable. Baliverne, tente-t-il de se rassurer. La souveraine, elle, n'a plus de doute. Déjà, la puissante Russie bascule dans l'horreur. L'ascension fulgurante de cet ermite au pouvoir considéré comme mystique, commence le 1er novembre 1905. Il y est ce jour-là présenté à la famille impériale russe. Quel honneur, vous allez me dire, pour un fils de paysan qui est agriculteur lui-même. Il s'agit tout de même du tsar Nicolas II. Les souverains font depuis longtemps face à de multiples problèmes et sont soumis à un stress qui pousse l'impératrice en particulier à consulter des conseillers spirituels. Parmi eux, deux Français, particulièrement en vue à l'époque, Papus et Maître Philippe. Ce dernier lui a annoncé au cœur de la tempête la naissance d'un fils, enfin et surtout, l'arrivée d'un grand mage, un immense prédicateur au pouvoir infini. Le souverain du pays, lui, ne croit guère à ce qu'il considère comme des âneries, du moins au départ. En effet, alors que l'une de ses missions principales est de donner au régime un héritier, ce sont coup sur coup quatre filles qui arrivent. Le couple, tout comme les instances dirigeantes, sont désabusés. Les tensions augmentent et logiquement, les premiers questionnements sur la légitimité du tsar, censé descendre de Dieu, ne tardent pas à arriver. Mais coupant court à ses premiers départs de feu, un héritier mâle arrive enfin durant l'été de l'année 1904. Le prince, auquel on donne le nom d'Alexis, est un miracle pour la nation. Mais comme tout ce qui touche au couple impérial, cette heureuse nouvelle s'accompagne d'un mauvais présage. Le petit garçon naît malade et sa vie est sans cesse mise en danger. En effet, il est hémophile. Son arrière-grand-mère, la reine d'Angleterre Victoria, a transmis cette maladie génétique à plusieurs générations de souverains européens dont elle est l'une des figures ancestrales. Nous sommes au début du XXe siècle et, cela va de soi, la médecine n'est pas encore au top. Elle a progressé, certes, mais trop faiblement pour bien appréhender les tenants et aboutissants de ce mal qui touche le sang. C'est donc dans ce contexte très particulier, conjugué au premier relent d'envie démocratique dans le pays, qu'arrive Rasputin. Avant d'intégrer l'entourage de la famille souveraine, il est testé par un thaumaturge, un guérisseur si vous préférez, de la famille impériale. Et ce dernier est convaincu par ce que dégage le grand barbu qui se dresse devant lui. Bon, il faut dire qu'il est impressionnant. Ce guérisseur le décrit ainsi. Il est de stature moyenne, mais avec une carrure imposante, de nature sale et grossière, mais dégageait un magnétisme envoûtant et étrange. Il portait des cheveux et une barbe longue et hirsute, mais possédait avec ses yeux bleu clair, très perçants, un curieux regard hypnotique qui semblait avoir le pouvoir de transpercer l'âme de ses interlocuteurs. Quoi qu'il en soit, quelques jours après cette entrevue, le mystique prophète est introduit auprès de la famille tout entière, à l'exception d'Alexis, malade et alité. Le salon feutré, baigné dans une obscurité artificielle, est jalousement gardé par Pierre le Grand, dont le portrait orne le mur à droite. Au-dessus de la cheminée de marbre à gauche, Ivan le Terrible juge d'un regard sévère l'intrus du jour. Ah, le voilà bien entouré, ce fils de paysan venant du Tioumen, région bien éloignée s'il en est. Assis sur des canapés bien placés au milieu de l'espace, les cinq femmes de la famille. Alexandra, l'impératrice, se tient un peu plus devant les autres, comme pour protéger ses filles. Les quatre grandes duchesses esquissent un timide sourire au nouveau venu. Le tsar, lui, de dos, regarde à l'extérieur en ajustant le rideau opaque collé contre les vitres. Cette première journée de novembre est particulièrement froide et la pluie qui tombe ressemble déjà presque à de la neige. À l'extérieur du palais, des soldats patrouillent, le fusil à l'épaule. L'esprit accaparé par la santé fragile de son fils, il est néanmoins happé par le magnétisme de l'homme qui vient de faire son entrée. Sans être impressionné, Rasputin les salue et vient leur offrir à chacun une icône religieuse. Il plante tour à tour dans les yeux des membres de la famille son regard perçant. Il s'attarde plus longuement sur ceux de l'impératrice. Il lui demande à être conduit au chevet de l'héritier. Son instinct maternel, qui d'habitude la pousse à garder telle une lionne l'entrée de la chambre, se rompt sous le poids du charme et de la persuasion du barbu. Elle accepte de le conduire auprès d'Alexis. Surpris par tant de facilité, ses filles et son mari se regardent, interloqués. Mais comme enveloppé mentalement dans une couverture de coton, il la laisse faire. La chambre du petit garçon est éclairée à la bougie, plongée, elle aussi, dans une obscurité quasi totale en ce début d'après-midi. Il dort, allongé sur le côté. La semaine dernière, il est tombé pendant une course avec l'une de ses sœurs et son genou est si gonflé que cela est inquiétant. Faible, fiévreux, on craint sa mort prochaine. Le guérisseur, lui, ne s'affole pas. Gentiment, il réveille le prince et se présente. Il appose ses mains sur le membre malade, raconte au jeune des contes sibériens, l'embrasse sur le front et lui promet de revenir le lendemain. Il impose à sa mère l'arrêt complet des traitements et les remplace par de la médecine douce de Sibérie. À partir de là, 5 jours de suite, c'est le même manège qui se tient au sein du palais impérial. À chaque visite, on constate une amélioration de l'état de santé de l'héritier du régime. Les cœurs de sa famille sont bientôt soulagés. Le spectre de la mort s'éloigne pour Alexis. Cette première démonstration a pour effet immédiat de le rendre sympathique auprès des deux souverains. Ils sont séduits par ses talents mystiques et par sa discrétion. Ce rapprochement est inédit dans l'histoire du pays, tant leurs classes sociales sont éloignées. Mais Nicolas II n'a cure des ragots et des médisances. Raspoutine a sauvé son fils. Il n'en faut pas plus au fils de paysan pour se rendre indispensable. Mieux encore pour lui. L'impératrice se persuade qu'il est un messager de Dieu, rien que ça. Il représente l'union entre le seigneur, le tsar et le peuple, un trait d'union nécessaire à l'évolution de la Russie. Sa prière est précieuse et recherchée. Pour le guérisseur aux yeux perçants comme ceux des chats, c'est une ascension fulgurante. Invité dans les salons les plus mondains de la capitale, il rencontre les femmes les plus riches du pays et les fait tomber comme des mouches. Il est leur amant en plus d'être leur guérisseur, puisque, comme nous allons bientôt le voir, l'homme est un tonitruant débauché. S'il intrigue et fascine, cependant, il inquiète par son emprise sur le couple impérial. Certains nobles et militaires, déjà, commencent à murmurer à son sujet.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, nous vivons ensemble l'heure H du prédicateur le plus célèbre de l'histoire russe, Raspoutine. Cet homme aussi mystérieux qu'intrigant gagne les faveurs du tsar et de son épouse après avoir sauvé le prince héritier. Alors que tout semble maintenant possible pour lui, son mode de vie des plus particuliers sera bientôt à l'origine de scandales et suspicions. Raspoutine est rapidement logé chez une femme d'un général proche du pouvoir et elle le prend pour amant. Cette femme, crédule, si ce n'est naïve, le présente à certaines de ses amies qui ne résistent pas non plus au charme de l'homme hirsute de Sibérie. Il met au point des numéros avec des mises en scène habiles et se produit dans la ville de Saint-Pétersbourg, mais aussi au palais. C'est à ce moment que les premiers témoignages de débauche en tout genre apparaissent. Parfois à tort, c'est certain. D'autres fois à raison, tant la vie sexuelle de Raspoutine est au centre de toutes les attentions dans des cercles du pouvoir. Le couple, lui, reste loin de ces rumeurs. Leur guérisseur leur est indispensable. 2 ans après le premier miracle, le prince héritier, en 1907, refait une légère chute qui entraîne des contusions. Les hémorragies internes se multiplient alors et sa vie, de nouveau, ne tient plus qu'à un fil. En dernier recours, l'impératrice Alexandra appelle Raspoutine. Le guérisseur entre en transe et après un quart d'heure de prières intenses, il ordonne au jeune prince d'ouvrir les yeux. Il a réussi. Alexis se remet tout doucement après cet épisode. Cette séance, au dénouement inattendu, lui ouvre en grand les portes du palais au quotidien. Il est chargé par Nicolas II de veiller à la bonne santé des membres de sa famille et de lui-même. Ses oreilles traînent donc dans les couloirs du palais et, doucement mais sûrement, commence un travail de conseil. Cette vie de débauché entre consommation d'alcool excessive et le développement d'une prêche assez particulière par le sexe le rend très impopulaire. D'abord dans les cercles masculins de la cour, puis au sein même du peuple, où les ministres et généraux du tsar s'efforcent de le faire passer pour un diable déguisé en ange. Il ne va pas tarder ainsi à se faire ses premiers ennemis haut placés. Parmi eux, le président du conseil, l'équivalent du premier ministre. De 1906 à son assassinat en 1911, cet homme, grand réformateur, tente de moderniser la Russie impériale. Il souhaite plus de liberté et moins d'autocratisme. Le Parlement gagne en pouvoir. Les vagues d'attentats qui touchaient les personnalités les plus influentes sont endiguées. et le système ferroviaire est également amélioré. Mais plusieurs fois se dresse sur son chemin la vie de celui qu'on appelle déjà le Staré, l'ermite. Totalement sous son emprise, Nicolas II l'écoute religieusement. Il n'applique cependant pas toujours ses conseils, mais prend systématiquement son avis en compte. Une crise dans les Balkans en 1909 oblige la France et l'Angleterre à intervenir contre la Russie. Alors que Nicolas II est prêt à faire monter la température contre ses voisins, il est ravisé par son conseiller. Le Premier ministre ne comprend pas l'influence de cet homme sur le tsar. Tous les opposent. Lui, membre des classes dirigeantes face à ce mystique paysan sorti des bas-fonds. Il le fait donc surveiller par la police secrète et politique dès 1909. L'année suivante, le scandale éclate par voie de presse sur son train de vie. Bien entendu, tout ceci est orchestré et les opposants au régime utilisent cette affaire pour critiquer Nicolas II de manière indirecte. Le tsar n'a plus le choix. Il provoque l'exil de Raspoutine qui se réfugie à Kiev. Mais alors qu'il projette un pèlerinage en Terre Sainte, il est retenu in extremis et finit par revenir avec de fortes précautions à la cour. En septembre 1911, lors d'une représentation à l'Opéra de Kiev, le Premier ministre est assassiné par un jeune anarchiste en présence de la famille impériale et de Raspoutine. C'est un énorme coup dur pour la politique du pays et le climat tant national qu'international commence à sentir le soufre. Deux mois plus tôt, en plein milieu d'une transe, l'étrange prédicateur a annoncé la mort du ministre. La mort suit sa trace, la mort chevauche sur son dos. C'est ce qu'il a dit. Bien qu'il soit de retour à la cour, la réputation et l'influence du Sibérien sont en berne. Malgré tout, la santé fragile de l'héritier va lui permettre un énième retour en grâce. Cette fois, la performance est tout bonnement extraordinaire. Vous vous souvenez? Il vit dorénavant à Kiev la plupart du temps, alors que la cour, elle, est située à Saint-Pétersbourg. Lors d'un déplacement en Pologne, en 1912, le prince est victime d'un accident qui provoque une intense hémorragie interne. Sa jambe est extrêmement gonflée. Les traitements ne peuvent plus l'aider. Poussée vers la mort, Alexandra, l'impératrice, s'empresse d'envoyer un télégramme à son homme de confiance. À dessein, il entre en transe devant la Vierge de Kazan, une icône importante du spirituel russe. Après de longues et douloureuses prières pour lui, il fait suivre un message à destination du palais. Alors que les médecins ont prévu de faire donner les derniers sacrements à Alexis, il leur annonce que le petit va vivre. Et il a raison. Il est alors élevé au rang de héros et réintègre la cour à Saint-Pétersbourg. Il est de retour alors que la marche vers une guerre globale et généralisée semble inévitable. De son point de vue et de celui de certains alliés, sa mission est de tenter de freiner les belligérants. Pour lui, la défaite du pays en 1905 face au Japon a déjà montré toutes les lacunes de l'armée. Mais rien n'y fait. Et le jeu des alliances se met en place. Certains services secrets européens, dont ceux des Anglais, découvrent qu'il est en lien avec des réseaux allemands, qui ne sont pas dans le même camp que la Russie. Alors qu'il a quitté l'agitation de la capitale pour retrouver sa région natale durant l'été, il est victime d'une tentative d'assassinat, poignardé à plusieurs reprises. Cet attentat a pour lui deux conséquences. Une fois rétabli, Nicolas II, qui a cru perdre son conseiller, lui donne encore plus d'importance. Nomination des ministres, des généraux, des promotions, il a son mot à dire sur tout. Cependant, d'un point de vue personnel, il est saisi par la peur. Pourtant, ses orgies et sa consommation d'alcool ne font qu'augmenter, comme si la débauche était une échappatoire à la mort. Personnage clé du régime, il va néanmoins subir un camouflet d'importance au mois d'août 1914. Le 1er août, à la suite d'événements enchaînés en cascade en quelques semaines, l'Europe se déclare la guerre. Le patriotisme national est au firmament. Le départ pour le front des troupes est teinté d'élan nationaliste. Raspoutine et ses envies de paix sont reléguées au second plan. Les premiers mois de la guerre ne lui donnent pas raison, tant l'armée avance avec confiance et sûreté face à l'Allemagne. Pour autant, l'histoire est parfois mauvaise joueuse et bientôt la situation s'inverse. La bataille de Tannenberg et la retraite qui s'ensuit provoquent une baisse notable de morale dans l'armée et la population russe. Tout l'hiver, un manque d'approvisionnement criant tant en vêtements qu'en armement provoque un raz-de-marée politique. Le commandant en chef est renvoyé et alors que tous ses ministres lui déconseillent, Nicolas II décide de prendre lui-même les choses en main. Il déménage donc sur le front. Au moment de décider de la régence du pays en son absence, il confie les clés du camion à sa femme, l'impératrice Alexandra, mais aussi à Raspoutine lui-même. Ainsi, en moins de 10 ans, notre homme est passé de la culture des champs de blé à la mainmise sur la Sainte-Mère Russie. Ses ennemis se réveillent, augmentent en nombre. Les politiques, les militaires, tous répugnent à devoir en référer à cet homme dépravé, débauché. Alors que la guerre tourne au désastre, les pires calomnies, pamphlets et campagnes de presse sont menées contre lui. Sa situation devient intenable. La Chambre accuse l'impératrice, née en Allemagne, et le prédicateur d'être des agents de l'ennemi. Dans l'ombre, une famille de l'aristocratie russe, réputée plus riche que la famille impériale, s'active. Il en va du destin du royaume. Raspoutine doit mourir. Le plan machiavélique, diabolique, va mettre des mois à se mettre en place convenablement.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H d'un homme à l'ascension aussi fulgurante que mystérieuse, Raspoutine. Fils de paysan, il impose ses talents de guérisseur et de prédicateur à la cour impériale de Russie. Médecin personnel de la famille, où il sauve plusieurs fois l'héritier à la santé fragile, ses frasques en tout genre provoquent l'ire des aristocrates et d'une partie du peuple. Détesté, alors que la guerre prend une tournure défavorable au pays et qu'il en devient le régent, un complot se met en place afin de mettre un terme à ce que beaucoup considèrent comme une folie. Le prince Félix Youssoupov est l'héritier d'une famille dans laquelle puissance et richesse sont en vigueur depuis des siècles. Il n'a pas 30 ans que déjà il côtoie les cercles fermés du pouvoir et qu'il parle à l'oreille du monarque. Enfin, qu'il parlait. Avec la place qu'a pris ce paysan aux dents longues et à la barbe sale, son influence à lui, tout doucement, s'éteint. La fougue de sa jeunesse lui fait dire que l'homme est dangereux et qu'il en va du destin de la Russie. Ils sont beaucoup au palais et dans la rue à penser comme lui. Pire, on accuse Raspoutine de comploter en faveur de l'Allemagne, l'ennemi juré. Il n'en faut pas plus pour que plusieurs complots soient organisés contre lui. Déjà, une première tentative a échoué il y a quelques mois. Alors cette fois, il ne faudra pas le rater. Le jeune prince décide donc de prendre les choses en main lui-même. Mais la tâche s'annonce ardue. Le régent n'est pas idiot et il sait bien que la famille de Félix s'oppose ouvertement à lui. La première étape consiste alors à inverser la vapeur, à passer d'ennemi à celui d'ami. Il faut dans le même temps trouver des complices. Il lui est impossible de passer à l'acte seul. Naturellement, il se tourne d'abord vers les ennemis déclarés du conseiller. Mais stupeur, aucun ne veut prendre le risque de passer à l'acte. Le jeune prince se retrouve dans une première impasse. Il va alors se rapprocher d'un mouvement conservateur d'extrême droite à la Chambre et en particulier d'un député qui, lui, se joint au complot. Voir le tsar entre les mains d'un paysan est tout bonnement impensable pour ces législateurs extrémistes. Quelques jours plus tard, le prince reçoit en audience un jeune lieutenant convalescent revenant du front. Si au départ, rien ne semblait le présager, les deux hommes se lient d'amitié et, d'abord hésitant, le conspirateur lui soumet son projet d'assassinat. En guise de serment de fidélité, le jeune officier propose son aide sans hésitation. Le lendemain, le cœur léger de ses premiers ralliements, Félix rencontre le grand-duc Dimitri, haut personnage incarnant le futur du régime tout comme lui. Sans qu'il ne lui demande rien, le duc évoque avec lui sa volonté d'éliminer Raspoutine, mais également son incapacité à trouver un plan adéquat. Sans hésiter, là non plus. Le prince l'intègre au complot. Cependant, Dimitri doit partir au front pour ne rentrer qu'à la mi-décembre. Tout le monde se met d'accord pour éliminer le prédicateur avant la nouvelle année grégorienne. Le prince Félix profite de ce délai pour se rapprocher de leur cible. Il est introduit auprès du conseiller par une dame de la cour, l'une de ses nombreuses admiratrices. Cependant, il ne souhaite pas attirer l'attention et encore moins éveiller les soupçons de sa famille. D'un commun accord, Raspoutine et lui décident qu'il entrera et sortira par des escaliers de service. Félix est certes dégoûté de devoir se rapprocher de cet homme qu'il déteste, mais décide pourtant de tenir bon. Quelques cercles du pouvoir ne tardent pas à remarquer ce rapprochement des plus étranges, évoquant même une relation homosexuelle. Lors d'une entrevue, le moine fou tente même d'hypnotiser le jeune aristocrate qui évoque cette expérience dans ses mémoires. Il note ceci. « Le pouvoir hypnotique de Raspoutine était énorme. Je sentais comme une force invisible qui me pénétrait et versait une chaleur dans tout le corps. Dans le même temps est venue la stupeur. J'étais engourdi. Je voulais parler, mais ma langue n'a pas obéi. Lentement, j'ai sombré dans l'oubli et je vis devant moi le regard de Raspoutine brûlant. Deux faisceaux phosphorescents fusionnés en une tache de feu. Mais sa force de caractère lui a permis de résister. Et alors que le conseiller pense maintenant le tenir à sa merci, il n'en est rien. La date du passage à l'acte approchant, le prince est satisfait. Tout se met en place comme prévu. Déjà, le grand-duc Dimitri est sur le chemin du retour. Depuis la première tentative de meurtre, Raspoutine vit dans la terreur. Il parle à beaucoup de ses disciples de sa mort imminente et certains d'entre eux, le jour du drame, le supplient de rester chez lui. Il n'en fera rien. Il a rendez-vous avec le prince Félix en qui il a confiance, au domicile de l'aristocrate. Là, il espère rencontrer et envoûter sa femme. Elle est réputée pour être l'une des plus belles femmes du royaume. En réalité, elle n'est pas là, éloignée pour l'occasion en Crimée. Sa prétendue présence sert néanmoins d'appât. Le prince se fait livrer des gâteaux à la crème rose qu'un médecin qui accepte de l'aider empoisonne au cyanure. Afin de ne pas éveiller les soupçons, certains en sont dépourvus. Ainsi, Félix pourra aussi en manger en toute sécurité. Un peu après minuit, il passe prendre chez lui et en voiture le conseiller. Il l'aide à enfiler son manteau et ils entrent au palais de Félix par une porte dérobée. Tout le long du trajet, Raspoutine a un œil à l'extérieur. Il craint pour sa vie et en fait part à celui qu'il prend pour son ami. Ce palais est une merveille de l'architecture russe et les deux hommes, emmitouflés dans leur fourrure, descendent un gigantesque escalier de marbre afin d'accéder à la salle à manger. Là, Raspoutine entend des voix et des notes sortant d'un phonographe au loin. Le prince lui annonce que la princesse est retenue par des invités, mais qu'elle arrive. « En attendant, vous prendrez bien un gâteau, cher ami !» Refus du conseiller, qui n'aime pas les pâtisseries trop sucrées. La main du prince tremble. Il se saisit d'un gâteau tout en espérant qu'il en a bien choisi un qui n'a pas été rempli de cyanure. Il y a dans cette assiette une dose de poison à vous tuer un régiment de cosaques sans aucun doute. Les complices, eux, attendent, postés en haut de l'escalier. Bientôt, les dernières notes seront jouées. Quelques minutes passent. Le prince propose de nouveau des gâteaux, nouveau refus. Paniqué, il rejoint ses complices qui ne savent pas quoi faire, puis redescend. Le conseiller s'est alors ravisé et il mange avec gourmandise quelques-uns des mortels gâteaux. Il boit également un verre de vin de Madère, saupoudré de poison. Le cyanure est pourtant un poison qui agit vite sur l'organisme, mais là, rien. Non, rien. Le prédicateur mange, boit, rit, mais ne perd pas conscience. Pris de panique une nouvelle fois, Félix s'excuse, prétextant presser sa femme. Il rejoint ses complices. Raspoutine refuse de mourir. N'y tenant plus, il se saisit d'un pistolet tendu par le grand-duc et redescend 4 à 4. Le conseiller lui tourne le dos. S'adressant à lui, Félix lui hurle « Raspoutine, vous feriez mieux de regarder le crucifix et de prier !» Le prédicateur se retourne aussitôt et le prince vise le cœur. Sa victime s'écroule, prise de spasmes, les poings serrés et les yeux fermés. Les complices se précipitent alors dans la pièce et le médecin, lorsque cesse son agonie, constate que le projectile a traversé le cœur. Raspoutine est mort. Il est 2h30. Les conspirateurs, soulagés, décident de se rendre à l'étage et de s'offrir en remontant. Ils sont persuadés d'avoir sauvé la Russie des griffes de l'homme qui se vide de son sang sur une peau d'ours en bas. Mais le prince est inquiet. Il redescend, trouve la dépouille sur le sol et prend son pouls pour se rassurer. Inexistant, il est bien mort. L'aristocrate n'arrive cependant pas à expliquer ses sentiments d'angoisse qui l'assaillent. Penché sur le corps, il remarque cette fois la paupière gauche du conseiller qui bouge, puis l'œil droit qui s'ouvre et qui fixe d'un air grave et diabolique le prince. Pris d'une panique totalement incontrôlable, face à cette vision d'horreur, il ne peut parler. Soudain, la victime se redresse sur ses jambes et se précipite vers lui pour l'étrangler en hurlant. Par miracle, il parvient à sortir de la pièce et à aller chercher ses complices, tous tétanisés, eux aussi. « Raspoutine est vivant !» hurle-t-il. « Comment est-ce possible ?» interroge le grand-duc. À peine ont-ils le temps de descendre que le mort-vivant se tient à la rambarde de l'escalier, à côté de la porte d'entrée. Le prince le sait, elle est verrouillée. Il a lui-même vérifié. Mais contre toute attente, soudain elle s'ouvre comme par magie et Raspoutine est dehors en moins de 2. Alors vite, il faut agir vite. Le député sort, tire 2 coups de feu qui semblent manquer leur cible. Et bientôt, 2 tireurs, dont l'un est semble-t-il issu des services secrets britanniques, plus expérimentés, tirent à leur tour. Le 4e tireur semble être le grand-duc lui-même. Touché en plein front, Raspoutine s'effondre. Cette fois, il est bien mort. Les conspirateurs s'accordent pour jeter le corps dans la Neva, de laquelle il sera remonté le lendemain. L'autopsie pratiquée, légende ou vérité, c'est selon, horrifie tous les membres de la cour. Le médecin retrouve de l'eau dans les poumons. Raspoutine ne serait donc pas mort après cette balle dans la tête, mais bel et bien noyé. L'aura mystique du personnage ne fait qu'augmenter et bientôt ses plus terribles prédictions vont se produire. Il semblerait que, détesté de tous, Raspoutine ait été victime de son succès. Après sa mort, on exagère le récit de son assassinat. On lui invente une résistance surnaturelle et des pouvoirs magiques, si bien qu'il est difficile aujourd'hui encore de démêler le vrai du faux. En tous les cas, le Staré aura vu juste. Quelques mois après sa mort, 2 révolutions déclenchées par Lénine et les bolcheviks ont raison du régime millénaire des tsars. Nicolas II et sa famille sont renversés et exilés. Tous sont assassinés le 17 juillet 1918, au fond d'une cave, comme de vulgaires criminels. Cette fois, aucun pouvoir magique ni prière enflammée ne tirera d'affaire l'héritier du trône qui, comme les autres, s'écroule sous le poids des balles. L'impératrice Alexandra et ses 4 filles, couvertes de bijoux, sous leurs vêtements, respirent encore après la fusillade qui emporte le tsar, son fils et les quelques amis qui vivaient avec eux. Alors que le canon du fusil mitrailleur encore chaud s'approche de son visage pour l'achever, l'impératrice a certainement pensé aux mots prononcés par son conseiller dont elle était si proche. Il avait prédit que le pays irait dans les mains du diable. Parlait-il du régime communiste ? Ou peut-être a-t-il vu venir l'avènement d'un des dictateurs les plus célèbres et les plus craints du siècle ? Son nom ? Joseph Staline. Mais ça, messieurs, dames, ça, ce sera le sujet d'une autre histoire. Voilà pour ce récit que j'ai eu l'honneur de vous partager avec la plume de Valjean. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi sur la première.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.